Merci, j'ai intérêt à pas me planter. Oui. Après tout ça, oui.
Bon. Ce n'est pas votre dernière conférence.
Oh,
sûrement pas.
J'espère que non. Ah. Mais je peux vous refaire toutes les. Parce que vous avez oublié les précédentes, je peux vous refaire. Bon, ben, écoutez, chers accords finis.
Attention.
Chers accords finis, carré accord fini, comme on dit en italien. Bon. Oui, ben, si j'ai plaisir à vous parler de Vaillant, ben, c'est d'abord pour des raisons personnelles qui remontent au passé de l'immédiate après-guerre et que ma génération a partagé. On sortait de l'adolescence, on sortait de la guerre. Et j'ai eu deux coups de cœur pour deux œuvres. J'ai toujours d'ailleurs, je les relis de temps en temps. C'est d'une part L'étranger d'Albert Camus. Albert Camus, c'est un de mes incontournables. Et puis Drôle de jeu de Roger Vaillant. Oui. Et bon, j'ajouterai d'ailleurs à propos de Roger Vaillant, de la part de certains critiques marginaux qu'on ne lit plus, et on a tort, en particulier un certain Kléber Hédens, je ne sais pas si ce nom-là dit quelque chose à quelqu'un. Bon, il disait que Vaillant aurait dû faire partie des grandes figures de l'après-guerre s'il s'était un peu moins intéressé à son ego, alors ça intéressait beaucoup, s'il avait eu davantage d'ambition, ben, il aurait eu le destin, dit Hédens, d'un Malraux avec moins de grandiloquence, c'est pas si mal, mais encore plus de panache. Ben, je ratifie assez. Bon. Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi Vaillant, c'est que les Accorfiens qui ont eu la chance de faire, comme toujours, un beau voyage, et ce beau voyage, je regarde mes notes, c'était en septembre 2012, dans la Puglia, justement. Ils le connaissent parce que c'est là que nous avons découvert, enfin les voyageurs de l'époque, ont découvert le cadre du roman La Loi, prix Goncourt 57, voilà, et qui a révélé notre auteur au grand public. Alors, ce cadre, vous le savez, on va en reparler, c'est un petit port pittoresque de la région du Gargano. Vous savez, le Gargano, c'est cet éperon rocheux de la botte de l'Italie, là. Et c'est une Italie un peu à l'écart, qui a été longtemps, on peut le dire, sous-développée. Mis à part quelques scènes de départ, je laisse de côté le film de Dassin. Hein. Bon. Vaillant, d'ailleurs, a refusé sa caution. Bon, c'est un film superficiel qui ne vaut guère que par la présence, mais une présence pulpeuse de Lulu Brigida, et surtout le numéro d'acteur de Pierre Brasseur. Ça, quand même, pour ces deux choses-là, ça... Et puis, il y a le cadre, quand même. Hein, ouais. Et la troisième raison, non des moindres, c'est que Vaillant doit énormément à sa seconde épouse, Elisabeth, qu'il appelle Lisina, née à Bologne en 1916, qui était la fille d'un certain Filippo Nardi, je dis un certain, j'ai tort, parce que c'était quelqu'un très connu, c'était un avocat célèbre, directeur du journal Il Tempo, et qui était un antifasciste notoire. Voilà. Alors, pour toutes ces raisons, il m'a paru, bah, disons, opportun de retracer le portrait d'un homme de notre temps. Je crois qu'on n'a pas assez loué. Et je crois qu'il revient, à la mode. Là. Grand voyageur, reporter de guerre. Justement, à ce sujet, un de mes amis m'apporte un petit opuscule qui s'appelle « La bataille d'Alsace », novembre-décembre 1944, avec comme titre « Roger Vaillant, correspondant de guerre accrédité auprès du grand quartier général ». Bon, voyez, donc c'est lui qui a fait un certain nombre de métiers de journaliste. Bon, et puis aussi, c'était un styliste, c'est un écrivain qu'on peut admirer, que beaucoup de gens admirent encore. Et puis, il a, comme tous les gens de goût et des gens d'esprit, il a adoré l'Italie. Alors ça, c'est primordial. Alors, pour vous le faire mieux connaître, quelques repères biographiques. Alors, je comptais sur la photocopieuse d'ici pour vous distribuer un certain nombre de papiers. Alors, elle est évidemment en panne, c'est toujours comme ça, mais vous allez pouvoir distribuer là, quelques repères biographiques, mais enfin, je pourrais vous en dire quand même quelques mots. Alors, Vaillant, vous savez, né dans une famille qu'on peut qualifier, pour simplifier, d'une famille petit bourgeois. Alors, le père a ouvert un cabinet dans l'Oise, dans une bourgade de l'Oise, qui s'appelle Assis en Mulcien, moi je ne connaissais pas d'ailleurs. Bon, un cabinet de géomètre expert, il le déménage ensuite à Reims en 1919, à l'époque où la reconstruction bat son plein. Ah, j'ai oublié d'avancer du coup... Ah ben voilà, nous y sommes. Alors, Il y a allusion à sa première association, si j'ose dire. Il y a la porte du chapitre à Reims, et puis il y a les copains à droite. Alors, je ne sais pas si vous les reconnaîtrez. Moi, je ne les ai d'ailleurs pas reconnus. Alors, je vais vous dire, on va en parler tout de suite. Alors, donc, il déménage à Reims, et il va au lycée, le lycée qui s'appelle aujourd'hui lycée Clémenceau, avec trois camarades. Alors, je vous les cite. René Daumal, Roger Gilbert Lecomte et Robert Méra. Alors, ils décident, à la suite de Rimbaud, de changer la vie, et tout en faisant l'expérience des paradis artificiels, là, c'est une référence à Baudelaire, là, et ils fondent le groupe des Frères Simplistes. Alors, frères, ça doit s'écrire, je sais pas si vous le voyez, avec PH, oui. Alors, ça, c'est un coup d'œil à Jarry, hein, et à Ubu, à la pataphysique. D'ailleurs, ça doit évoquer la gidouille, ça, hein, aussi, voilà. Alors, ce qualificatif de simpliste renvoie à la volonté de retrouver la simplicité de l'enfance et puis ses connaissances intuitives et spontanées. Voilà. Quitte à poursuivre l'exploration du monde onirique à l'aide d'adjuvants que nous appelons aujourd'hui des stupéfiants. Bon. Alors, il dit lui-même, nous étions entre 1920 et 1925, quatre garçons fort pauvres, mais ne se croyant pas tels, puisque nos pères pratiquaient des professions dites libérales. Mais tout avait changé depuis la guerre, et un polytechnicien ne pouvait espérer qu'un emploi modeste. Alors notre fierté se rebella, nous n'admettions pas d'être vaincus dès le départ, nous décidâmes de devenir poètes. Bonne décision, voilà. Et alors, voilà, Roger Vaillant, en compagnie de Daumal et de Lecomte, cette fois en Hippocagne au lycée Louis-le-Grand. Méra, lui, va à la fac de médecine. Alors c'est alors qu'il découvre le surréalisme qu'ils avaient découvert spontanément, finalement, ils s'y reconnaissent tout de suite. Alors, ils entrent en relation avec Léon-Pierre Quint, qui était à l'époque directeur des éditions CRA, K-R-A, ça existe là, depuis sa fondation en 1919. Maintenant, elle s'appelle plutôt, c'est appelé ensuite édition du Sagittaire, voilà. Alors, lequel Pierre Quint leur fait connaître un mouvement parallèle qui est animé par Georges Rigmond Dessaigne, qui dirigera une revue éphémère, Bifur, et qui, lui, avait participé avec Tristan Tzara à la naissance du mouvement Dada. Voilà, nous y sommes, voilà, le vrai, hein, à Zurich, vous savez, en 1919. Alors, là nous sommes en 25, le groupe que fréquente épisodiquement Robert Desnos, hein, voilà, va s'étoffer, il va intégrer notamment un certain Maurice Henry. Mais ça, vous le connaissez, c'est un poète, mais il est surtout connu comme dessinateur, caricaturiste, et dans Le Canard enchaîné, il a autrefois pas mal dessiné. Et ben, c'est à lui qu'on doit cette superbe caricature, c'est-à-dire on voit en 44, De Gaulle, et il y a la Tour Eiffel qui lui tend les bras, et lui dit « Mon grand ». Vous souvenez cette caricature, c'est superbe, ben, c'est signé Maurice Henry. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Pierre Minet. Alors, Minet, il est important parce qu'il écrit un bouquin qui s'appelle « Entretien avec Roger Vaillant », qui est paru en 1970, et il a écrit là-dedans un article absolument capital. Il y en a un autre qui vient avec eux, qui s'appelle André Roland de Renéville. Je vous signale qu'il est l'auteur de Rimbaud le Voyant. Et le groupe, donc, envisage la publication d'une revue. Alors, cette revue, eh bien, c'est justement Vaillant qui en trouve le titre, ça s'appelle « Le Grand Jeu ». Alors, vous le voyez, là, sur la gauche, là. Alors, les surréalistes, ils auraient dû applaudir. Ben, pas du tout. Ils voient très vite un clan rival. Se méfier, hein, entre littéraires, hein, bon. Alors, le premier numéro va paraître en juin 1928, et, justement, j'ai dit, c'est Roger Vaillant qui en trouve le titre. Et, je ne sais plus où j'en suis. Bon. Ah oui, et alors, tout de suite après, le 11 mars 1929, le pape des surréalistes, vous savez, c'est un certain André Breton, qui est un personnage important, mais pas facile, hein. Bon. Breton, lui, va instruire le procès du grand jeu en demandant l'exclusion de Roger Vaillant. Bon, lui sera refusé, mais le coup sera porté. Alors, l'activité du groupe va évidemment avoir un peu de plomb dans l'aile, si vous voulez. Elle va quand même perdurer jusqu'en 1932, au moment de la grande querelle entre Breton et Aragon, je vous passe les détails. C'était déjà sanglant, oui. Mais dès janvier 1930, Vaillant avait compris et il avait rompu avec ses anciens amis. Bon. Alors il termine en Sorbonne sa licence de philo, il se met en ménage avec une jeune femme qui s'appelle André Blavette, petite femme un peu ronde, il l'appelle Boule d'ailleurs. Il l'épousera assez vite, et il s'en séparera d'ailleurs encore plus vite. Mais il entre, grâce à Robert Desnos, encore lui, à l'un des journaux dirigés par Pierre Lazareff, qui s'appelle Paris Midi. Il dit c'est pour gagner sa vie. Alors je crois que, voilà, ah ben voilà, c'est meilleur ça. Bon, alors je ne sais pas où il est là, essayez de le reconnaître. Hein. Bon.
C'est
celui de gauche, là, qui est debout. Oui, je pense, plutôt que celui qui est... Alors voilà le journal, 26 février, mais c'est un journal de 36, 25 centimes. Bon. Donc il entre chez Lazareff, et d'ailleurs il fera beaucoup de journalisme. Oui, justement, parce qu'il écrira des articles dans le journal communiste qui s'appelle Clarté. Vous savez, ça se vendait beaucoup là, sur la Sorbonne. Là, oui, c'était très, très bien porté de lire Clarté. Mais il fait du journalisme souvent à contre-cœur, et il considère ça quand même, c'est un moyen d'apprendre son métier d'écrivain. Mais en même temps, ben, il mène, je ne veux pas dire qu'il mène la grande vie, on dirait l'autre, hein. Il fréquente les boîtes de Montparnasse, les Montparnaux, il joue déjà au libertin, mais un libertin chic, un libertin dandy, oui. Et malheureusement, il est assez vite entraîné, comme on dit, dans la spirale de l'alcool et de la drogue, et avec des périodes de fatigue et de dépression, comme le dira avec humour un de ses biographes, qui est Marc Lambron. Il dit « Roger Vaillant soigne ses dépressions et son stalinisme au whisky et à l'héminoctal. » Ben, ce mélange, quelquefois, ça a marché. Ouais. Alors, il passe de Paris Midi à Paris Soir, qu'il est replié en 1942 en zone libre à Lyon. Alors, il fait une cure de désintoxication, il en fera souvent d'ailleurs. Bon. Il entre dans un réseau de résistance, proche de la mouvance communiste, comme agent de renseignement. Mais là, il fera son métier d'agent de renseignement très sérieusement. Un rôle, il le remplira avec courage et avec une certaine désinvolture, exactement comme son héros. Vous savez, dans le jeu, son héros s'appelle Marat. Et déjà, il a écrit, entre deux actions de résistance, il en écrit une ébauche. Et au printemps 44, alors, bon, il est un peu grillé à Paris, alors il trouve refuge dans la Bresse, dans le département de l'Ain, oui, à Chavannes-sur-Ressouze. Oui, alors là, je vous montre une carte. Bon, alors, vous voyez, Chavannes est tout au nord. Bon, vous avez, au-dessus de Bourg, j'ai marqué Meillonnas, parce qu'on en parlera beaucoup. Et puis, en dessous d'Ambérieux, les Alimes. On peut dire que ces trois lieux signalés par des points rouges sont des lieux familiers de Vaillant. Et donc, il s'inscrit dans une géographie de la Bresse et du Bugey, voilà. Donc le voilà à Chavannes, c'est d'ailleurs un très joli petit village, je crois qu'il y a, on voit pas, ah voilà, oui, voilà une maison typique de Chavannes-sur-Ressouze, c'est une maison bressane typique. Ne croyez pas qu'elles sont toutes comme ça, on en a sauvé quelques-unes, hein. Ouais, ouais. Et il met en forme ce drôle de jeu, qui va obtenir l'année suivante le prix interallié. Et pendant à peu près 5 ans, on peut dire de 45 à 51, le voilà parisien avec deux intermèdes en Italie, alors on va le voir sous sa bio, oui. Et l'événement capital étant sa rencontre, coup de foudre, avec Elisabeth Naldi, qui a lieu le 3 novembre 1949 à Paris, chez des amis, et il ne la quittera plus. Hein, qu'elle n'a plus cette personne qui est une personne extraordinaire, qu'il appelle familièrement Lysina, et on en reparlera. Je crois que c'est une grande figure féminine, on peut dire, de l'époque. Pas assez connue, à mon avis. Bon, alors, de 51 à sa mort, qui est en 65, il meurt très jeune finalement. Alors, Roger et Elisabeth, elle disparaîtra en 83 seulement, ils resteront. Mis à part quelques escapades italiennes, ils resteront ancrés dans ce département français numéro 1, puisque c'est le département de l'Ain, oui. Plus exactement dans sa partie montagneuse, qui s'appelle le Bugey, voilà, aux environs d'Ambérieux, c'est connu, c'est une grande gare de triage. Hein. Et Ah si, c'est une guerre importante. Et le couple qui vient de... Oui, j'entends des protestations. Le couple qui vient de s'inscrire au PC, au Parti communiste, s'installe d'abord à la Grange au Loup. C'est une maison extrêmement confortable, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, prêtée par des amis. Ses amis, c'est André Ullmann et Suzanne Tenant, qui ont joué un grand rôle dans sa vie, mais bon, ils ont un peu oublié. Et dans un hameau d'Ambérieux qui s'appelle les Alimes dominées... Ah, mais voilà, j'ai oublié de vous montrer ça. Ben oui, c'est Roger et Lysina, là, au début de leur histoire. Ben, ils sont à Paris, ils sont dans un bistrot du Bois Saint-Germain. Et Lysina boit notre santé, oui. Oui, alors voilà le château qui domine ce village des Alimes, tout près d'Ambérieux. Ce château qui appartient à la famille Faucigny-Lucinge, une grande famille, et ils vont appeler cette période là, la merveilleuse saison des Alimes. Là, je vais vous les montrer, alors les voilà, aux Alimes. Alors vous revoyez, ils sont à la maison, c'est la grange qui est à côté, c'est pas très luxueux, oui, puisqu'on est assis sur une pierre là. Il y a le grenier à foin au-dessus, hein. Et là vous voyez beaucoup mieux sur le petit médaillon du haut, Lysina qui regarde amoureusement son Roger. Bon. Donc ils vont rester quelques temps, malheureusement assez peu, hein, mais il en profitera pour faire connaissance avec le monde paysan et le monde ouvrier. C'est vrai, il y a les gens du cru, hein, et il aime beaucoup vivre avec les gens simples de la vie contre. Alors les ouvriers, c'est les cheminots d'Ambérieux. Hein. Alors il va transcrire ses découvertes dans deux romans que vous avez lus certainement, des romans que je qualifierais de réalistes. Alors l'un s'appelle, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, Beau Masque, et l'autre 325 000 francs. Alors c'est très lu dans les classes, hein, 325 000 francs. T'sais. Bon, alors les voilà encore là aux Alimes, mais je ne sais pas qui, je crois que c'est Suzanne Tenant qui doit être à gauche, hein, mais j'en suis pas sûr, hein, la photo ne dit pas. Voilà, et là, ah oui, alors pourquoi j'ai donné cette photo? C'est une course cycliste, oui, parce qu'il adore les courses cyclistes, et je vous rappelle que 325 000 francs commence par la course du Clusot. C'est en réalité la boucle d'Oyonnax, elle existe réellement, et il était féru de cette... Bon, alors ne demandez pas qui est cette belle dame à droite, là, on dirait une actrice italienne, mais je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas, c'est dommage. Bon. Mais Vaillant a dû le remarquer, bon, certainement. Bon. Oui, alors où en étais-je? Oui. Alors je disais aussi que 325 000 francs, à cause de cette page d'anthologie, qui est l'arrivée de la course du Clusot, Antoine Blondin, dans l'équipe, a vanté, a fait connaître le nom de Vaillant. Il a été connu d'abord comme ça, oui. Bon, en 54, Roger et Lysina vont se marier, ils décident de s'installer dans une maison plus vaste et plus confortable, du centre d'un village que vous avez vu, qui s'appelle Meillonnat. Alors voilà Meillonnat, là vous avez à droite le centre du village avec l'église, puis une maison qui ressemble à ces jeux. Et à gauche c'est la maison qui a été habitée par Roger et Lysina. Bon, vous la voyez. Bon, elle a été repeinte depuis, ouais. Bon. Mais c'était confortable, mais sans plus, hein. Ouais. Alors, Meillonnat, c'est dans une région qui s'appelle géographiquement le Revermont, c'est-à-dire le revers de la montagne. Ce sont les premiers contreforts du Jura. Nous sommes, alors, bientôt de 54-56, ça sera pour une année difficile. Oui, parce que... il prend connaissance du rapport Khrouchtchev, et à ce moment-là, il comprend où va le communisme, et il décroche symboliquement le portrait de Staline et déchire discrètement sa carte du parti. Voilà. Et il signe la motion de protestation contre l'intervention soviétique en Hongrie, un peu la mort dans l'âme, mais ça, alors tous les copains, les grands communistes de l'époque lui tourneront le dos, bien entendu, on voudront à tout jamais. Voilà, voilà encore Roger à sa fenêtre, là, il est très beau, là. Bon, et alors c'est à ce moment-là qu'il se tourne à la fois vers le 18e, bon, en écrivant l'éloge du cardinal de Bernis. Alors le cardinal de Bernis, c'est un personnage assez étonnant, hein, qui est effectivement un homme d'église, mais qui a été ambassadeur, et qui a été lui aussi, comme Roger, un très grand amateur de femmes et un grand connaisseur chez les prostituées romaines et étrangères. Bon, Fermont de Bord. Bon. Et alors, il se lance en même temps dans une étude sur son modèle, qui s'appelle Coderno de Laclos, c'est l'auteur des Liaisons dangereuses, bien sûr, vous le connaissez. C'est son modèle en libertinage. Enfin, de Bernis et l'autre, ils sont deux, oui. Il y en a un qui est très catho et l'autre un peu moins, voilà. Et il emmène Elisabeth vers l'Italie. Plutôt, c'est peut-être même Elisabeth qui va l'entraîner vers l'Italie. Et au retour, là, il va s'enfermer définitivement dans son ermitage de Meillonas. Et là, il mourra le 12 mai 1965 d'issue d'un cancer du poumon. Et il meurt dans les bras de Lisina au son de Ciao, Ciao Bella, le chant des partisans italiens, vous connaissez, et en disant « Enfin, je suis heureux voilà. ». Alors, j'ai oublié de dire que Elisabeth avait ajouté oh, « Heureusement, car sa hantise, c'était de devenir gâteux. » Bon, heureusement, ça lui a été épargné, c'est un souhait que nous nous faisons tous. Bon. Bien, alors, après ce rappel bio, qui permet peut-être de vous connaître un petit peu mieux, Vaillant, je voudrais qu'on observe les points de convergence, vers l'Italie. Alors, il est allé en Italie à 8 reprises, avec 2 longs séjours, et en particulier le dernier dans la Puglia. Il faudrait parler aussi de ses intercesseurs, c'est les gens qui ont fait connaître et aimer l'Italie. Ben, il y en a un, quoi, vous devinez, c'est Stendhal. Bon. Et puis, il y a ses ouvrages où l'Italie est présente, et c'est pas seulement dans la loi. Bon. Et puis surtout, il y a Elisabeth, son amante, sa muse, comme il le dit, son port de sauvegarde. Et ce personnage est un personnage étonnant. Voilà, bon, alors je vais passer ça, au deuxième point, si vous voulez, qui sera l'inspiratrice Elisabeth Naldi. Bon, alors les biographes la décrivent au carrefour de 3 cultures. Alors, russe, française, italienne. Oui, pourquoi russe? Parce que c'est une jeune, c'est une juive russe par sa mère. Et sa mère, Moussia, est une femme extrêmement cultivée. Elle est poétesse dans son pays, elle est traductrice. Et elle débarque en 1905 en Italie, après une révolution, et elle épouse certain Filippo Naldi, dont j'ai parlé, dit Pippo, qui est avocat de formation, directeur du journal Tempo, et puis qui est monarchiste libéral et qui est évidemment farouchement anti-mussolinien et qui justement sera arrêté par les autorités mussoliniennes et au sortir de prison, donc il fera de la prison en Italie, il s'enfuit à Paris et il rappelle sa famille. Alors, dans la famille, il y a 3 filles et la plus jeune c'est justement Lisina, c'est Elisabeth. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tentée par le théâtre. Alors, elle va suivre des cours de théâtre chez Gaston Batti. Hein. Gaston Batti, c'est un des grands hommes de l'époque, là, oui. Et en 1938, elle retourne à Rome. Elle entame alors une carrière de comédienne à Rome. Elle rencontre un jeune metteur en scène italien, elle l'épouse, et elle entre dans la clandestinité. Mais elle se séparera assez vite, parce qu'en 1943, elle rencontre, là, elle aura plusieurs coups de foudre, oui, Vaillant le dernier, hein, oui. Elle rencontre un personnage aussi un petit peu marginal, qui est un compositeur de musique, il est roumain, il s'appelle Roman Vlad, et elle l'épouse. Oui. Il fera les musiques de tous les films d'Orné Clément, c'est comme ça que vous le reconnaîtrez. Ouais. Et à partir du... Alors là, je vais peut-être montrer... Ah non, là j'avais un peu rapide, oui. Bon, oui, j'ai montré trop tôt, mais vous devinez ce que c'est, là. Bon. Alors, quand elle rencontre donc Roger Vaillant, tout va changer, mais on l'avait prévenu, on l'a dit, vous savez, c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation, bon, il n'est pas sérieux, il court les filles, il court même les bordels, il se drogue, il fume, enfin, il a tous les défauts, bon. Et tant pis, elle reconnaît en lui ce qu'on appellerait le grand prédateur, oui, il a un œil de rapace, il a un nez d'aigle, oui, et en même temps, elle a deux vies.
Mais elle a déjà 33 ans, donc...
Oui.
L'expérience déjà.
Ben oui. Enfin, je sais, oui. Alors, elle a deviné aussi, je crois qu'elle pouvait jouer auprès de lui le rôle d'une guide, d'une Antigone, vous voyez, ça, les femmes sont de ça, oui. Bon. Et lui, il en est quand même ébranlé, ça veut dire. Il a reconnu en elle une femme de qualité qui a un esprit extrêmement vif et un sens littéraire pointu. Et justement, là, à partir de ce moment d'exception, les amants ne cessent de se donner rendez-vous. Et le plus connu, le plus romanesque, là, je vous l'ai montré en avant-première, là, il a lieu de janvier à octobre 1950, et c'est à Capri, dans la villa de Curzio Malaparte, voilà, exactement là où Godard a tourné Le Mépris, tournera Le Mépris en 63, vous avez pu voir hier, là, hier ou avant-hier plutôt, oui, oui. Bon, excusez-moi, je ne considère pas ça comme un chef-d'œuvre. Enfin, bon, il est bon temps de dire que c'est bien. Bon, bien, passons là-dessus. Oui. En tout cas, la maison est formidable. Hein. C'est un édifice où, d'ailleurs, Malaparte a mis sa patte, si j'ose dire. Il est construit par un architecte extrêmement connu. Enfin, connu parce qu'on nous le dit, il s'appelle Adalberto Libera. Et dans un endroit, il faut reconnaître, où les maîtres maçons et les fournisseurs ont dû râler, hein, parce que pour atteindre là, il y a un petit escalier qui descend sous la plage, mais c'est extrêmement acrobatique. C'est vraiment, oui, une maison extraordinaire. Bon. Alors, dans cette maison, ils ont été quelque temps extrêmement heureux, et là, oui. Elisabeth, alors, à ce moment-là, cherche à faire annuler son mariage, tandis que Roger a renoncé à sa vie dissipée. En 51, alors, il retourne en France, dans le Bugey, justement. Alors les voilà à Capri, voilà. C'est la seule photo que l'on ait, et là, vous voyez, ils sont maintenant tous des stivants, là. Ah, c'est pas ça que je vais vous montrer. Qu'est-ce que je fais pour retourner? Qu'est-ce que je fais pour revenir? À gauche, là? Ah, oh, ben, lutte. Ah, mais c'est affreux! Ah, ben, c'est toi qui. Ah, bon! Ah, mais c'est miraculeux! Hein. Ah, oui, Vaillant était comme moi, c'est la technique zéro, hein, ça. Alors là, je me sens très proche de lui, là. Bon, où en étaient les gens? Oui, alors je disais qu'en 1951, ils sont de retour en France et ils vont trouver leur asile aux Alimes. Alors normalement, on devrait les avoir là. Non. Ah, oh, ben non, non. Alors, ben, il y a un raté là. Bon. Bon, et ils sont aux Alimes, donc dans le Bugey, et ils disent que c'est la plus belle saison de leur vie. Ils sont dans une maison absolument sans aucun confort. C'est une expérience extrêmement spartiate, là, il le dira souvent, mais studieuse, parce que en même temps, il écrit beaucoup, et puis il s'ouvre au monde paysan, au monde des cheminots. Et là, il faut noter l'influence formidable que Elisabeth a eue sur lui. Elle veillait au quotidien, elle l'incitait à l'écrire, elle le poussait, elle était sa première lectrice, elle lui donnait des conseils, elle lui disait ce qu'elle en pensait. Et il faut dire qu'après la disparition de Roger en 65, comme je vous l'ai dit, elle travaillera à garder son souvenir et à conserver sa mémoire, et surtout à garder vivante son œuvre. Et alors effectivement, en 70, elle va publier, elle, un choix de lettres et de journaux sous le titre « Écrits intimes ». Et elle-même participera à quantité de colloques, voilà. Et puis elle écrira plus tard un très très beau livre qui s'appelle « Drôle de vie » ou « Une passion avec Roger Vaillant » où elle avoue « Vivre avec Roger, c'était avoir du courage. » Il portait en lui une grande fragilité. Oui, il ne devait pas être commode tous les jours, hein, c'est sûr. Bon. Alors, j'arrive au troisième point, voilà. Ce sont les voyages et les séjours en Italie. Alors Vaillant est un grand voyageur, et on peut dire qu'à un certain moment de sa vie, ça fait partie de son métier. Alors il connaît bien l'Afrique, l'Asie, l'Europe, mais son pays de prédilection, bien entendu, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est bien l'Italie. Alors en 27, en été 27, il a à peine 20 ans, il se rend en Tchécoslovaquie, il s'arrête à Milan et à Venise, et déjà dans une lettre à sa sœur, il fait part de son enthousiasme avec une référence à Stendhal. En 1936, il passe une semaine en Sicile en voyage de noces avec sa première femme. Bon. Mais c'est au printemps 48 qu'il va vraiment découvrir le pays, où il est envoyé à titre professionnel couvrir les élections d'avril 48 dans une Italie encore chancelante. Alors il s'y rend en voiture, en compagnie de deux amis, Pierre Courtade et Claude Roy. Claude Roy, vous le connaissez. Ah, hein, oui. Ben, Courtade aussi, mais Courtade n'est plus lié au PC. Hein. Alors, il assiste avec joie au triomphe du Fronte Democratico Popolare et il se plonge avec délice dans la vie artistique, intellectuelle, cinématographique, mondaine, etc. Et Claude Roy a eu une parole amusante. Il dit, nous avions tous des rendez-vous d'amour avec Brutus, Spartacus, Stendhal, avec le passé, avec le communisme italien, l'avenir. Bien sûr, ils vont déchanter. Bon, d'abord, le PCI se fait doubler par la démocratienne, hein, le fameux Alcide de Gasperi. Hein. La société italienne reste imprégnée de traditions séculaires profondément marquées par la religion. Et Vaillant, lui qui est athée pur jus, hein, est frappé par le caractère quasi primitif des rites religieux, par le côté naïf superstitieux de la foi. Alors il conclut dans un article, bon, au fond, il manque à l'Italie un Descartes et un Voltaire. Point. Voilà. Je crois que c'était pas mal vu. Hein. Alors en contrepartie, alors, il apprécie énormément l'art de vivre milanais et la gentillesse des Romains. Et comme le président de Brosse, il admire aussi la beauté des femmes. Il rêve de vivre à Rome, de louer un palais, où il donnerait une fête chaque semaine. Il lui arrive parfois dans ses promenades italiennes, oui, au titre stendhalien, incluse dans un bouquin qui s'appelle « Le regard froid », oui, il arrive de s'attarder sur la description de paysages dans le style d'un lyrisme qui tranche avec sa retenue habituelle. C'est pas dans son genre, oui. Alors, au printemps 50, Elisabeth et Roger partent pour l'Italie. Ils ne vivent pas encore ensemble, ils n'est pas encore divorcés. Bon, situation inconfortable. Hein. Alors, Roger Vaillant vient de faire la connaissance à Paris de Malaparte. Mais je voulais trouver une photo de Malaparte, je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Malaparte l'invite avec Elisabeth à séjourner pendant l'été, en son absence, dans sa fameuse villa de Capri. Ah ben, vous l'avez déjà vu, bon, tant pis, bon. Et là, il le dit, il arrive le 12 juin, il note la Casa Malaparte, sang de bœuf, ben tu ne le vois pas, ça, bon. Qu'on la voit, quoi. C'est vrai qu'elle est tellement... Oui, hein, c'est bien ça. Sang de bœuf est sous mes pieds, sur un éperon rocheux au centre d'un cirque de haute falaise. Il écrit ça dans son carnet, voilà, dans les cris intimes. Et une centaine de pages sur cette période très heureuse, alors que dans les crises intimes, 800 pages couvrent 40 ans. Et là, vous voyez, quand il est heureux, il ne mesure pas le temps ni la longueur des pages. Oui. Alors, par la suite, Roger et Elisabeth font encore plusieurs voyages en Italie, dont l'un en 55, notamment dans la Puglia, où il séjourne. Là, c'est là qu'on peut peut-être monter le Gargano. Voilà. Voilà. Oui, à Manfredonia, alors je ne sais pas si vous le voyez, voyez au bas, là, à Vieste et à Rodi Garganico, c'est au-dessus. Là. Bon. Et, oui. Bon, ben vous verrez des photos là. Bon. Alors, il y a des biographes qui placent l'épisode l'année suivante, où le couple se serait installé à Lecce, qui est nettement plus au sud, mais ça, c'est pas sûr du tout. Bon, ce qu'on sait, et ça c'est sûr, c'est qu'ils sont allés en visite chez un riche propriétaire terrien du Gargano, qui a servi de modèle à Don Cesare. Bon. Et dans une interview du 12 juillet 57 de l'Express, il déclare « Je passais l'après-midi chez l'un de ces propriétaires terriens, et puis il y a eu Mariette. Dès que j'ai vu Mariette, j'ai pensé « C'est un personnage de roman pour moi. » Tous les regards des hommes convergeaient vers cette jeune fille assez dédaigneuse, évidemment nue dans sa blouse blanche, d'une agréable indolence, qui c'était une servante de la maison. Et là, il faut reconnaître qu'il est tombé amoureux de Mariette, il n'y avait pas tort. Voilà. Bon, il y aura d'autres voyages après, professionnels. En 57, il est à Turin. Et à Turin, pourquoi faire ? Ben, poursuivre la course automobile des mille et mille gars. Oui. En mars 60, pour un projet de film, inabouti. Et le dernier aura lieu en août 64, à l'occasion des funérailles à Rome de Togliatti. C'est le leader du PCI, et qui était mort à Yalta, rapatrié à Rome. Et alors, Roger Vaillant rentre en voiture avec photographe Marc Garanger, et il passe par Orvieto, Sienne et Modène, où il note, ça lui arrive de noter après ses émotions, disons, du PC, oh, le soir, formidable dîner émilien avec Zampone et Lambrusco. Alors je vous rappelle au passage, si vous ne savez pas, que le zampone, c'est pied de cochon farci, spécialité renommée de Modène, avec une variété de Lambrusco di Modena. Oui, alors ça c'est sympathique, si vous voyez que Vaillant n'appréciait pas que le whisky. Ça c'est... Pardon ? Bon, alors maintenant je vais vous parler des intercesseurs, parce qu'il y a un rapprochement à faire aussi avec l'Italie. Les intercesseurs, ce sont les écrivains qui ont donné, je vais aller plus vite, le goût de l'Italie à Vaillant. Il y a d'abord et avant tout Stendhal, et en particulier le Stendhal des souvenirs des gothismes de Lucien Leven et la vie d'Henri Brulard. Mais son œuvre tout entière lui est familière. Il la lit toute sa vie. Oui. Il ne fait pas un pas à Rome sans être accompagné par Stendhal. Claude Roy raconte qu'il retrouve Vaillant chez un ami sculpteur dans la Via del Babuino, c'est le quartier chic. Oui. Roger donnait lecture d'une page de Rome, Naples et Florence. Un critique a signalé que même ses personnages de roman lisaient Stendhal. Dans la loi, justement, la Donna Lucrezia, la femme du juge, dit à Francesco qui vient de lui rendre la chartreuse. « Ah, moi, j'ai relu 10 fois. Bon. » Alors, ce même critique note que Vaillant a traduit l'exergue de Rouget Noir, « Tous Epifiu » en français, « aux hommes de qualité » et en dessous en italien, « uomini di cultura » et d'ajouter « celui qui a écrit de l'amateur ne pouvait qu'apprécier la posture du dilettante. Bon. » Second intercesseur, Casanova, bon, bien. mais il admire plutôt sa curiosité, il le traite de voluptueux de l'érudition. Mais c'est sa morale de liberté qui le retient. Troisième intercesseur, je vous l'ai dit, c'est François Joachim de Pierre, cardinal de Bernice, né en 1715, d'une vieille famille ardéchoise, qui était ministre de Louis XV, ambassadeur à Venise, puis à Rome. Et qui a poussé l'amour de l'Italie jusqu'à y mourir en 1794. Voilà les intercesseurs de... Bon, alors, oui, je voulais dire que... Mais, ah ben, juste, il me semble que j'avais un portrait, hein. Non ? Ah non, non, ben, excusez-moi, je cherchais un portrait de... Bon, c'est bon. Oui, je disais que Roger Vaillant s'est étendu sur le cardinal de Bernice parce que ce type même du prélat de cour, qui était très répandu au XVIIe ou XVIIIe, qui était favori de la Pompadour, vous savez, entrait à l'Académie française à l'âge de 29 ans, mais en tant qu'auteur de poésie galante, qui entre nous n'est pas tripette. Hein. Bon, il a séduit Vaillant, non pas par ses poésies, hein, mais par son absence de préjugés, par son... disons son irréligion, tout simplement, son côté libertin, son amour des plaisirs et des belles personnes. Eh bien, sans aucun doute, d'ailleurs c'est Casanova, il est lié à lui, qui l'a conduit à de Bernice. Alors, le cardinal avait engagé à Venise, comme espion, Casanova, tiens, et on dit qu'il a partagé avec lui une maîtresse, qui était une nonne magnifique, bon, paraît-il, bon. Alors, ils ont été, en tout cas, ce qu'on sait, qu'ils ont été compagnons de beuverie, de fêtes, de parties fines. Parties fines, vous savez comment il faut traduire, bon, je ne sais que rien. Bon, divertissement courant dans la Venise du 18e, et qui, entre nous, ne serait pas déplu à Roger. Hein. Bon. Il faut peut-être ajouter un intercesseur contemporain, ben c'est Malaparte lui-même qui l'a connu. Et Claude Roy dit, dans ses notes, qu'ils étaient faits pour s'entendre. Ils étaient aussi mythomanes et aussi élégants l'un que l'autre. Ils cultivaient chacun le côté aristocratique de leur personnalité, exerçant l'un sur l'autre une mutuelle fascination. Lors d'une soirée, Roger et Courtiot se sont livrés à un feu d'artifice d'histoire, d'anecdotes plus fausses les unes que les autres, mais toujours passionnantes. Voilà. Et à l'inverse, je crois qu'il faudrait que je vous dise, mais ça va être très rapide, un mot des intercesseurs antiques, qui sont souvent présents à l'esprit de Roger Vaillant, à commencer par Plutarque, que son père lui fait lire dès son plus jeune âge, et surtout à l'historien latin Suétone, auquel je vous signale qu'il a consacré une étude, intéressé en particulier par Brutus, le meurtrier de César, et par Antoine. Bon, voilà, alors j'en arrive au point suivant, c'est-à-dire l'Italie dans l'univers romanesque de Vaillant. Alors, on pense bien sûr à la loi. Bon. Mais il y a déjà dans son œuvre des personnages italiens, je mets tra virgolette. Hein. Bon. Le premier, c'est sans doute le héros de Beau Masque. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ça. Bon, c'est le rôle-titre du livre qui est en quelque sorte le catalyseur de l'histoire qui s'y déroule. C'est une histoire réaliste qui a pour cadre une des filatures de Saint-Rambert en Bugey, dans la vallée de l'Albarine, un secteur d'Ambérieux, justement, on revient au Bugey, où les luttes syndicales se multiplient. Alors, le héros en question, c'est un Italien, c'est un Piémontais, il s'appelle de son vrai nom Belmaschio. Ça veut dire beau mâle, oui. Mais oui, mâle, oui. Il est ouvrier spécialisé en Italie, il a travaillé au chantier naval de Lanzaldo à Gênes, il connaît les luttes ouvrières, depuis il vit en France de petits boulots. Mais bon, il présente une double image, si vous voulez, qualité italien. C'est quelqu'un qui a pu avoir l'étoffe d'un leader, un leader ouvrier, un leader politique. Puis parallèlement, ben, c'est aussi un spécimen de ce qu'on appelle les machos, comme en montraient à l'époque les films néo-réalistes italiens, vous savez. Il séduit toutes les femmes, mais ne tombe jamais, lui, dans le piège des sentiments ni de la guimauve. Dans le roman suivant, ça s'appelle 325 000 francs, qui a pour cadre la capitale de la plasturgie, c'est-à-dire Oyonnax, c'est là où on fait, vous savez, tous les objets en plastique, là, qui est pas loin de Saint-Rambert, d'ailleurs, et l'Italie y figure en la personne de Cordelia, c'est la femme du narrateur. Bon, elle est purement et simplement le double d'Elisabeth Naldi. Elle n'avait pas eu à aller loin pour trouver un modèle. Voilà. Alors, bien sûr, on arrive à La Loi, qui est le roman italien de Vaillant. Vous savez, il nous plonge directement dans l'Italie des années 50. Une Italie qui est différente de celle que fréquentent les touristes classiques, hein, qui, eux, sont attirés par Rome, la Toscane, l'Ombrie, etc. C'est l'Italie du Mezzogiorno, hein, l'Italie d'en bas, hein, parfois hors du temps. Ben, c'est un petit peu celle que nous avait fait entrevoir Carlo Levi dans son Cristo si fermato à Eboli. Oui, La Loi, ben, c'est un petit peu un regard objectif, en apparence, lié à une conscience politique qui se focalise sur un microcosme qui est aux prises avec des pesanteurs archaïques. Alors là, s'affronte, là, vous connaissez les personnages, il y a le seigneur féodal, il y a Don Cesare, bon, qui sent d'ailleurs ses prérogatives, son domaine, ses biens, ses terres, ses amours lui échapper. Il y a les représentants du pouvoir légal, qui ne sont pas toujours très efficaces. Il y a le juge Alessandro. Là, il est enfermé, une histoire personnelle avec sa femme. Bon. Il y a le commissaire de police à Tilio. Puis en face, il y a l'ingénieur agronome, l'homme du Nord, le Lombard. Hein, lui qui vient pour mettre en valeur, pour les bonificationnés du territoire. Et puis, il y a le personnage, je vous parlais de mafioso, là, Matteo Brigante. Hein. Et puis aussi, pas oublier, le pouvoir occulte, les femmes. Et les femmes dont les servantes de Don Cesare, il y a la vieille Giulia et ses filles, et en particulier la fameuse Mariette. Bon. Et puis, il y a le cœur antique. Alors, le cœur antique, il est formé des pêcheurs journaliers, des petits gens de Porto Manacore. Et puis, il y a les disoccupati. Hein. Et les guaglionnés, c'est les garnements, qui sont très forts. Ils sont capables de démonter la moto du gendarme en 5 minutes et puis repartir les pièces détachées dans la nature. C'est assez étonnant, ces personnages. Le tableau serait incomplet, bien sûr, si tout de même je ne vous montrais pas les empreintes du modernisme. Alors l'agronome, je dis un mot, il est venu au nom du plan financé par la Cassa di Mezzogiorno pour tenter de mettre en culture la zone marécageuse qui est autour de ce Porto Manacore. Un plan qui est ambitieux, qui est vivement critiqué, vous savez, par la droite à l'époque. Là. Il y a aussi le tourisme, il ne faut pas le négliger, il commence à s'implanter. Et c'est justement un aspect indirect du tourisme qui constitue la trame romanesque de La Loi. Vous savez, la trame romanesque, c'est une histoire de vol. Il y a un petit côté roman policier dans un car camping qui appartient à un touriste suisse. Hein, et tout le monde lui dit qu'est-ce qu'il est allé au camping alors qu'il pouvait se payer le bel hôtel de la ville. Bon, et là, on lui vole une assez coquette somme, 500 000 livres. C'est qu'à la fin, on saura qui c'est qui a fait le coup. Hein. C'est la Mariette. Bon, je vous dis trop tôt. Bon, alors, mais ça mérite d'être. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est cette histoire qui va mettre en ébullition tout Porto Manacore. Et puis le trésor, 500 000 livres, ça fait rêver tous les pauvres gens de la Puglia. Bon, et cette affaire policière, tous les protagonistes et même les seconds couteaux vont entrer en jeu. Par exemple, il y en a un qui joue un certain rôle, et il est, c'est peut-être un des bons côtés du film, il est interprété par Paolo Stoppa, oui. C'est Tonio, c'est l'homme à tout faire de Don Cesare, oui. Et qui va même jusqu'à lui prêter sa lambretta. Alors ça, c'est un exploit, hein, oui. Oui, alors justement, je voulais dire qu'il y a aussi dans le roman un aspect qu'on n'a pas été tellement signalé, mais je voudrais insister là-dessus, c'est l'objet phare. C'est l'auto qui est un symbole machiste chez les Italiens du Sud. Alors vous verrez, il y a une opposition entre la Fiat 1100 de Matteo Brigante et la Topolino du juge Alessandro. Et puis, la Topolino, c'est le vieux modèle, c'est la 500 noire, c'est pas les belles qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait modeste. Hein. Alors l'opposition, oui, très, très nette là, entre les deux. Alors, je crois que le moment est venu d'examiner peut-être un petit peu plus près les éléments qui entrent dans la composition du roman. Alors, je vais montrer le cadre géographique. Ah oui, alors c'est là qu'arrive la carte, là, voilà. Alors, nous sommes dans la région montagneuse de la Puglia. La Puglia, quant à nous, alors j'enrage quand je vois traduit par le français Pouille, parce qu'automatiquement on pense à la Champagne pouilleuse. Or, la Puglia, c'est la Puglia des Latins, c'est-à-dire la région la plus riche de l'Italie. Alors là, il faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Bon. Alors, ça n'a rien de pouilleux, au contraire. Alors, la région la plus montagneuse de cette Puglia, c'est le Gargano, qui s'appelle aussi Sperone d'Italia, c'est-à-dire l'éperon, c'est ça, l'éperon de la botte. Et alors, l'intérieur est encore assez sauvage, parce qu'il y a au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une forêt qui s'appelle, dont il reste des morceaux, qui s'appelle la Foresta Umbra. Et qui comprend deux lieux de culte. L'un très ancien, c'est le Monte Sant'Angelo, qui est le Mont Saint-Michel français, lié au Mont Saint-Michel français par un chemin de pèlerinage qui passe, qui s'appelle la Via Sacra Longobardorum, dont une branche est la Via Frantighena, qui passe dans le Val di Susa, au pied de Sant'Ambrogio di Torino, dans un autre lieu célèbre, où il y a un pèlerinage aussi. La Sagra di San Michele. Bon. L'autre lieu de culte est plus récent, c'est San Giovanni Rotondo. Et c'est là où les fidèles viennent prier le Padre Pio, qui est vénéré dans toute l'Europe. Bon. Il n'en parle pas, hein. C'est pas son truc. Hein. Bon. Non, il n'y est pas allé, non, ça c'est sûr. Et curieusement, il n'y a pas beaucoup de prêtres dans son roman. Il y a une atmosphère tout à fait laïque. Et on lui a reproché, d'ailleurs. Bon, enfin, ceci est un autre problème. Alors, il y a une route littorale, vous devinez, qui fait découvrir une côte découpée avec des sites naturels extrêmement pittoresques. Bon, ça, c'est Vieste, ça, je crois. Ouais, c'est beau, ça. Ouais. Oui, bon. Ah, ben voilà, c'est lui que je cherchais. Là. Il est là. Ah, ben là, décidément, il n'est pas où je l'attends, voilà. J'y reviendrai. Bon. Donc voilà un petit côté de la côte. Et surtout, eh ben on arrive là, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais ça fait rien. Bon, je voulais vous montrer l'Architello. Bon. Alors, donc cette route dessert des petites cités portuaires, dont la plus importante est Manfredonia. Ça s'appelle Manfredonia parce que c'est du nom du fondateur normand qui s'appelait Manfred, bon, qui l'appelle Porto Albanese dans la loi. D'où il dit qu'on peut prendre un bateau qu'il appelle le Vaporetto, que les gens appellent aussi le Vaporetto, qui n'a rien à voir avec Venise, et qui fait du cabotage d'Anco Navari. Et c'est, paraît-il, un bon moyen de découvrir justement cette Puglia. Alors, le touriste actuel peut hésiter encore entre Vieste, dont je l'ai montré, qui est baptisé Schiavone dans le roman, Peschicci, voilà. Où il y a un immense camping international qui se nomme Manacore Villaggio, c'est là qu'il a pris le nom, voyez. Et Rodi Garganico, que vous voyez là. Alors la tradition veut que ce soit ce Rodi Garganico, que vous admirez en ce moment, qui est servi de modèle. Alors effectivement, les critiques ont épluché le roman, il correspond le mieux à la topographie qui est décrite dans le roman. Bon, il doit y avoir une vieille ville, un centro storico avec des ruelles. Bon. Ah ben voilà, Architello, mais il n'est pas où je voulais, mais enfin, c'est vrai. Oui, oui. Bah, non, c'est moi qui l'ai fait, je sais bien. Non, je n'accuse personne, je m'accuse moi-même. Mais c'est joli, alors, qui tient l'eau, là. Alors, voilà. Alors, voilà les petites nouvelles. Bon, en réalité, ça n'a pas été pris à... Je ne sais plus où ça vient, ça. Bon. À retrouver, voilà. Avec des ruelles en pentraille, des escaliers qui montent sur... Pardon ?
Oui,
peut-être bien. Merci. Mais il ne faut pas le dire. Hein. Bon, ça sera le Rodi Garganico. Bon. Oui. Alors, les ruelles vont jusqu'à la Grande Place. Et du côté est, il y a le rocher auquel s'est accrochée, on peut dire, la ville. Et en surplomb, on va trouver une pinède. Et là, le fameux trabucco, oui, l'outil indispensable du pêcheur, et il est écrit dans le roman, si on a le temps, on pourra le lire, mais je crois que... Bon. Alors, du côté ouest, une zone de jardin, des enclos d'orangers, de citronniers, plus loin vers la mer, il y a un marais où foisonnent les roseaux, et qui correspond à une dépression qui est occupée par le lac de Varano, et vers l'intérieur des terres, des oliveraies à perte de vue, mais c'est ce qui fait la richesse des gens de la casse de Don Cesare et Don Cesare lui-même. Voilà le décor. Alors, il y a aussi un autre décor, il faut le dire par souci de parallélisme, à côté du cadre géographique, il y a le cadre historique. Alors, la Puglia, je vous apprendrai en disant que c'est un lieu chargé d'histoire, à commencer par l'Antiquité, et Don Cesare conserve dans ses tiroirs un manuscrit 1500 pages qu'il a écrit, lui, sur l'histoire de la cité antique d'Ouria, qui existe, hein. Bon, il y a des fouilles, Ouria, c'est pas une invention de vrai, mais ça se trouve un peu plus loin. Bon, il est collectionneur d'antiquités, en particulier des vessies, des statuettes, qui viennent justement de cette ville d'Ouria, Ourion des Grecs. C'est un site portuaire, c'est la Grande Grèce, là, hein, faut pas oublier ça. Un site qui est attesté par des auteurs sérieux comme Pline l'Ancien et Roger Vaillant n'a rien inventé parce qu'on a fait justement très récemment encore des fouilles dans la lagune de Varano. Mais je crois que c'est peut-être pas le passé encore le plus prégnant. Le plus prégnant, c'est celui du XIIIe siècle, c'est le passé des Hohenstaufen, c'est le passé de Frédéric II. Voilà. Frédéric II de Swab, empereur des Romains et de Naples, connu pour ses conflits perpétuels avec les papes. Hein. Il est le prince qui a imprimé sa marque architecturale sur toute la Puglia et qui a fait ériger ce monument inoubliable, vous connaissez, hein, qui est le Castel del Monte, c'est pas très loin. Voilà. Et alors, Vaillant imagine une sorte de réplique plus modeste, si vous voulez, un bâtiment austère et monumental qui masque l'horizon de la grande place de Porto Manacore. Il est décrit dès les premières lignes de la loi. Oui. Alors, c'est un bâtiment bon, au dernier. Alors, il y a la mairie, il y a le commissariat de police, il y a le tribunal, et puis au dernier étage, il y a l'appartement justement du juge Alessandro, dont le hobby est justement la rédaction de cet ouvrage savant sur Frédéric de Swam. Et puis, il y a le point du présent, c'est-à-dire celui des années 50. Alors, je pense qu'on peut laisser la parole à Roger Vaillant lui-même. Il dit « J'ai passé plusieurs mois dans le Gargano, où géographiquement c'est le nord du sud, puisque sensiblement à la même latitude que Rome. Mais, quant au mythe du sud du sud, séparé du reste du monde par une haute barrière rocheuse à l'écart de toutes les grandes voies de communication. Les mœurs traditionnelles s'y sont maintenues presque intactes. Et plus je demeurais, davantage je me persuadais que tout ce que disent les Italiens du Sud, c'est vrai, et en même temps c'est pas vrai. La seule manière d'appréhender la réalité du Sud, c'est d'en exposer simultanément les aspects contradictoires. Le régime féodal se survit dans le Sud, mais on assiste à des mouvements novateurs. Le Sud est croyant, superstitieux, mais il est aussi très rationnel. Le Sud est le pays des vendettas. Mais on est très pointilleux sur l'application de la loi. Le Sud est un pays sous-développé, mais cependant l'économie est en plein essor. Et ça, c'était vérifié, nous l'avons appris par nous-mêmes lors du voyage. Je renvoie à tout ce que nous a dit notre Pierre Stalin. Hein. Et alors, Vaillant d'ailleurs a repris cette démonstration d'un, dans un article d'une revue, une revue connue qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait la revue Réalité. Une belle revue, hein, ça. Alors, dans le numéro de mars 58, il a écrit un article qui s'appelle « Les deux visages du pays de la Loire ». Bon, que faut-il en penser? Moi, je dis qu'à la lecture de la loi, on voit surtout les traces des mœurs féodales, hein, les traces des superstitions, les traces des jalousies. Hein, sous le regard constant et impitoyable du microcosme sudiste. On peut se demander si, voyant en insistant sur la stratification de la société sudiste, n'a pas tout de même un peu noirci le tableau. Et je fais une parenthèse, alors c'est un petit peu personnel si vous me permettez, oui j'abuse pas trop, non bon. Je me demande si c'est pas finalement pour faire diversion que Vaillant a centré toute la deuxième moitié du livre sur l'aventure entre le jeune Francesco, le fils de Matteo Brigante, et Lucrezia, qui est la femme du juge, qui est une espèce de Bovary local, si j'ose dire, oui, et la punition, qui est, punition entre guillemets, voilà, qui est infligée par Matteo Brigante, via la prostituée Fulvia. Bon, ça serait étonnant qu'il n'y ait pas de prostituée dans un roman de Vaillant. Hein. Bon. Mais ça change, à mon avis, la portée du livre, justement tout en mettant au jour le problème grave de la prostitution en Italie et puis le problème de l'hypocrisie qui va avec. Des problèmes qu'avait soulevé également en 1958 un certain Jean-François Revel, dont je vous ai parlé, hein, merci de m'avoir rappelé, dans un pamphlet qui s'intitulait « Pour l'Italie ». C'était en réalité contre l'Italie, hein, c'était quand même pas très gentil. Hein. Mais c'était pas totalement faux. Hein. Et à ce propos, justement, il y a un certain nombre d'intellectuels italiens qui ont réagi au roman de Vaillant. Hein. On n'est pas sorti indemne. Hein. Et justement, il y a une dame très bien qui s'appelle Silvia Disaini, professeure à l'Université de Naples, et qui est spécialiste, tenez-vous, du roman français dans la deuxième moitié du 19e, et qui a écrit des bouquins sur Zola et Vallès, considère la loi comme un véritable pamphlet. Voilà ce qu'il dit, moi je ne sais pas tout vous dire. L'image de la Puglia est vilipendée par Vaillant. Et ce que corrobore une autre dame, écrivain, parce que je refuse de dire écrivaine, bon, écrivain calabrais naturalisé français, disparu en 95, qui est Madame Maria Brandon Albini, hein, qui est un petit peu connue, plus connue peut-être que l'autre, qui, tout en louant les qualités littéraires du livre de Vaillant, lui reproche sa conception d'une Italie fausse et anachronique, avec une abondance de stéréotypes, une Italie créée selon des schémas chers à tous les Français d'extrême droite, une Italie féodale, barbare et violente, sensuelle et phallique, cruelle et païenne. Bon. Ouais. Oui, alors là, c'est Français d'extrême droite, pour Vaillant, c'est planté, là. Oui, bon. Mais je crois qu'il y a quand même une vision qui n'est... effectivement, qui est féodal et barbare et phallique, c'est pas faux. Ça. Bon, et cela dit, les lecteurs italiens avertis, parce qu'il y en a aussi, hein, ils ont assez vite fait un rapprochement avec un livre paru la même année, en 1958, qui dépeint une micro-société dans une autre région d'Italie, avec recul, c'est en même temps un roman historique, hein, l'action se passe en 1860. Ah.
Ah bah bien sûr.
Bah, c'est le roman sicilien. Le guépard.
Oui, très bien. Bon. Bon, eh bien, je ne voulais pas le dire, je voulais que vous le trouviez, oui, c'est le guépard, il gattopardo, de Tommaso di Lampedusa, et Silvia Disegni, déjà cité, écrit, alors je l'ai noté, sous le regard de ces deux auteurs, défile une image du Sud assez semblable, dans un cas comme dans l'autre. Le lecteur assiste à une crise historique, marquée par le passage d'une société à une autre, sans que toutefois l'on puisse parler de véritable transformation, mais plutôt de la reproduction d'anciens rapports de force sous des formes nouvelles. C'est pas mal. C'est pas faux, ça. Je dirais que c'est assez bien vu, ça.
Voilà, c'est ça.
Ben oui. Bon, oui. Alors. On ne peut pas dire que l'accueil du livre de Vaillant ait été chaleureux, ultramontès. Hein. Bon, il y en a un quand même, un grand romancier, militant socialiste, auteur de Pane e Vino, c'est Ignazio Silone, oui, a défendu la liberté de l'écrivain et affirmé qu'on ne devait pas lire, qu'on ne devait pas lire un texte de fiction comme s'il s'agissait d'un documentaire. Oui. Et il rejoint en quelque sorte quelqu'un que je n'aime pas, mais que j'ai lu, je m'y suis référé, qui avait écrit aussi un petit bouquin incendiaire sur Vaillant, certain Jean-Jacques Brochier, qui a été directeur de revues connues, et a fait paraître chez Eric Lossfeld en 1969, Roger Vaillant. Bon. Alors il dit, j'ai dû enlever ça quelquefois, oui, la loi est un roman au sens actuel de roman, œuvre de pure imagination destinée au divertissement du lecteur. Bon, là c'est peut-être allé un peu loin, hein, oui. Alors je crois qu'il faut faire part des choses. Hein. D'un côté on a voulu y voir une œuvre ethnographique, un roman sociologique, et on a un petit peu oublié la portée symbolique et même métaphorique du jeu proprement dit, de la loi. Alors, dont on peut lire une description réaliste. Est-ce qu'on peut prendre ça pour argent comptant ? Bon, alors, voilà ce que dit, je vais essayer de retrouver dans la loi ce qu'il dit du jeu lui-même, si je retrouve ma page, oui, c'est ça. Voilà ce qu'il dit. La loi se joue dans toute l'Italie méridionale. Elle se décompose en deux phases. La première phase a pour but de désigner un gagnant, qu'on appellera le padrone. On l'exécute le plus rapidement possible, tantôt aux cartes, tantôt aux dés. On peut aussi bien tirer le patron à la courte paille, ce soir-là, et choisir les tarots pour faire parler le sort, etc., etc. Bon. Et puis, alors, le gagnant, le patron qui fait la loi, le droit de dire, de ne pas dire, d'interroger, de répondre à la place d'interroger, de louer, de blâmer, d'injurier, d'insinuer, de médire, de calomnier, de porter atteinte à l'honneur, les perdants qui subissent la loi ont le devoir de subir dans le silence et l'immobilité, telle est la règle fondamentale du jeu de la loi. Voilà. Bon, ben, c'est curieux, on n'a pas trop parlé. Moi, je me suis toujours demandé si Vaillant ne l'avait pas inventé, tout bêtement, hein. Bon, tout au moins, il y a ajouté des variantes. Bon, je suppose que le point de départ est tout à fait vraisemblable. Il faut penser aux parties de cartes, dans nos estaminets de campagne, où les perdants payaient la tournée générale, hein, des parties au cours desquelles les langues se déliaient, et les benets se faisaient chambrer. Hein, il y a toujours une victime, il y a toujours l'idiot du village là, qui fait partie du paysage. Là. Bon. Alors, il se faisait chambrer sans ménagement. Alors, dans le roman, où d'emblée, Roger Vaillant affirme l'universalité et évoque seulement la possibilité d'une partie de cartes, plutôt un tarot, il y a une réalité. Alors, sur la table, il y a une cruche de gros rouge de terrassier. Oui, voilà. C'est du vin d'Andria, il précise à 14 degrés minimum et à 120 lire. Donc, c'est costaud et pas cher. Voilà. Bon. Et évidemment, les langues se délient à l'aide de ça. La suite est assez cruelle, c'est l'humiliation d'une victime désignée qui subit un interrogatoire, portant plus souvent sur les rapports avec les femmes, ou une femme en particulier, toujours considérée comme objet de possession. Alors, je dirais que l'interrogatoire, c'est en somme une variante locale du vieux supplice de la question, hein, mais sans sévices physiques graves. Voilà. Bon, je pense qu'il y a de ça, voilà. Bon, mais il m'a paru intéressant de faire le commentaire, je ne vais pas tout vous le dire, je ne vais pas abuser de vos instants, qu'on a fait en juillet 2003 un autre prix Goncourt, prix Goncourt 83, c'est Frédéric Tristan, je ne sais plus à propos de quoi il y a eu le prix Goncourt, vous non plus d'ailleurs, vous l'avez oublié. Oui, ah oui, une chose, à propos de prix Goncourt, petite anecdote, hein, entre parenthèses, hein. Bon, Vaillant a soufflé le prix à Michel Butor, oui. Bon, un roman également sur l'Italie, La Modification, et au sujet duquel de nombreux critiques et écrivains italiens ont signalé l'emprunt visible à une nouvelle de Valérie Larbeau, mon plus secret conseil. Si vous lisez les deux textes côte à côte, vous serez frappé des similitudes. C'est vraiment... bon, Je ne veux pas entamer le débat parce que j'avais soulevé ça à notre vice-présidente qui est tout à fait admirative de Butor. D'ailleurs, Butor, c'est un bon roman. Je veux surtout pas que vous pensiez que je considère que la modification. Et puis avec son aller-retour au Rome Paris, ça, il a gagné le jackpot là. Mais la trame de détail, c'est dans l'embout. Hein. Ah oui. C'est sur un trajet Naples-Cosenza. Oui. Mais il y a tous les détails, le cendrier qui bouge, hein, les gens qui hurlent le nom des stations. Alors le voyage, et puis au retour, il part pour rejoindre une femme, puis au retour, il reprend le train dans l'autre sens parce qu'il veut pas la voir. C'est exactement. Bon. Alors, Butor a toujours refusé de s'expliquer là-dessus, parce que une critique italienne qui l'a coincé un jour. Il a esquivé la chose. Bon, c'est un petit détail pour amuser les critiques. Là. Bon. Alors, quant à la loi, je veux dire que c'est un roman, à l'époque, on l'a voulu sociologique. Bon, qu'en est-il aujourd'hui? Voilà ce que dit Tristan. À le relire, il dit qu'on y retrouve l'écriture brève de l'ancien journaliste et le souci d'écrire les êtres humains avec amour, même s'il s'agit de salauds, et surtout le besoin passionné de démonter les mécanismes du pouvoir. Bon, la loi... à l'époque, c'est d'abord un redoutable jeu d'influence entre hommes du même village autour d'une bouteille de vin. Le sort désigne un patron qui, etc., il a le droit de, etc., vous voyez, les partenaires doivent encaisser, etc. Dans une petite région minée par la malaria et le chômage, où tout finit par se savoir et où l'imagination mène la danse, les ragots les plus scabreux alimentent le jeu et les soupçons s'installent. Chacun tient bien serré dans son poing le greffoir qui peut à tout instant devenir une arme redoutable. Et si vous avez lu le roman, vous savez que le greffoir, dans les mains de Mariette, hein, eh bien, elle va faire une belle estafilade à Brigante, hein, qui n'aura pas volé entre nous. Bon. Tristan continue, il dit que la loi, c'est une véritable métaphore de la société, parce que finalement, ces sociétés, c'est un jeu de mal. Qui tourne autour des épouses, maîtresses, putains ou vierges du territoire. Première règle immémoriale, l'homme du Sud a tous les droits sur le sexe faible. Bon. Deuxième règle, si une femme parvient à se jouer d'un homme, c'est elle qui inverse le jeu et fait la loi. L'homme devient obligé de mépris et de risée, il perd son honneur, et la femme alors devient au regard de tous une intrigante qu'il conviendra de mater afin de laver l'affront subi par la gent masculine. Troisième règle, la fonction sociale de l'homme lui procure des avantages plus ou moins reconnus ou acceptés dans le domaine du libertinage. Le obro Don Cesare a le droit de cuissage. Et à l'ombre de son héros, Frédéric II de Souabe, il ne s'en prive pas. Mais qui oserait y trouver à redire? C'est la tradition. Bon, c'est quand même changé d'image, là. Ah, voilà. Il est bon, Vaillant, là. Oui. Alors, Vaillant montre effectivement comment cette perversité du pouvoir, cette espèce de machisme permanent, là, prend ses racines dans la misère omnipotente, oui, et aussi dans la bêtise machiavélique, le besoin de dominer le plus faible que soi, bon, qui est une sorte de détournement du sens de l'honneur. Alors, il montre aussi, alors, je trouve ça intéressant, que c'est peut-être, dit Tristan, que c'est un des thèmes les plus subtils du roman, comment certaines femmes parviennent à se libérer du piège en retournant la loi à leur avantage. Et il donne trois exemples. Là, je ne vous le dis pas, il y a Mariette, bon, bien sûr, il y a Giuseppina, c'est la copine de la femme de Matteo Brionte, et Lucrezia, c'est la femme du juge. Bon. Alors il dit, cette peinture des mœurs convainc d'autant mieux que le personnage se débatte dans un climat économique et social dont ils n'ont aucun moyen de se libérer vraiment. Ouais, on les plaint dans le moment où leur conscience les condamne. Ouais. D'ailleurs, le regard désabusé du vieux notable Don Cesare finit par devenir celui du lecteur. Le lecteur face à une comédie, certes pas toujours plaisante, mais que sauve une féroce envie de sortir d'un jeu dont finalement personne n'est maître. Voilà. Bon, j'ai tenu à vous lire ces extraits de cet article paru en 2003, oui, à propos des 100 ans du Goncourt, parce que ça m'a paru objectif et pertinent. Voilà. Je voudrais ajouter en faisant écho à cette remarque de Frédéric Tristan, qui voit dans l'œuvre de Vaillant un intérêt porté aux hommes et à certaines figures dotées de relief. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, parmi ses intercesseurs, Vaillant admire énormément les héros de Corneille. Là, ça ne vous surprend pas, ouais. Il est hors de doute que la loi, à mon avis, s'est bâtie d'abord autour de deux personnages à forte personnalité. Bon, Mariette ne veut pas revenir, et il y a Don Cesare. Bon, il n'a pas un rôle capital dans l'intrigue, si vous regardez bien, mais il est quand même le pilier du roman. D'abord, il est le représentant du passé, de l'autorité séculaire du Seigneur. Il est aussi l'historien du lieu, vous voyez, il est j'oserais dire, le conservateur du patrimoine, mais ça n'existait pas encore. Voilà. Il sert de relais, finalement, entre les premiers habitants, les colons d'Ouria, voilà, colonie de la Magna Graecia, vous savez, et l'âge d'or de la Puglia sous Frédéric II. Et dans sa maisonnée, il y a en même temps le patriarche tout-puissant. Hein. Il règne sur sa cour de femme et sur son valet Tonio, vous savez, parce qu'il joue son rôle, celui-là. Et n'oublions pas aussi qu'il représente la caste des grands propriétaires qui exploitent d'immenses oliveraies cultivées par des paysans vraiment servages. Et ils étaient encore en servage à l'époque où Vaillant les a vus, là. Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des points communs, ce dont tu es arrêté, avec le prince Salina, hein, dans le Guépard. Oui. Aristocrate aussi, distingué, cultivé, admirateur d'un passé révolu, qui a perdu, lui, toutes ses illusions. Et une autre critique italienne, qui s'appelle Elena Zamani, écrit: Don Cesare et Don Fabrizio se font observateurs d'un temps auquel ils choisissent de ne plus appartenir. Ce sont, en somme, deux figures de déserteurs, des personnages solitaires, caractérisés par un mouvement de désolidarisation par rapport aux coordonnées de l'espace historique du temps présent. Bon, j'ai un petit peu filandreux, mais c'est pas mal. Bon. Et il ajoute un peu plus loin: Don Cesare est désintéressé, pas au sens inintéressé, nous disons, comme les chômeurs sont désoccupés. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la sienne. Ils ne se sentent pas tellement différents des disoccupati qui attendent toute la journée, debout, le long des murs de la grande place de Porto Manacore. Mais lui, il n'a même pas l'espoir que survienne un événement qui le réoccupe. De l'espoir aussi, il s'est désintéressé. Mais on peut voir aussi dans Don Cesare une part de l'auteur. Je ne sais pas ce que je veux dire. Hein, bon. Et au moment où il a commencé à écrire la loi, en 1956, il l'écrit après l'immense déception qui va le conduire à quitter le PC. Et il n'a plus qu'à puiser en lui-même pour suggérer le désintérêt de son personnage qui ne prête plus attention qu'à sa collection d'antiques. Alors, ben j'arrive à la fin, l'ultime conclusion. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben voilà, au portrait de lui. Voilà. Oui, là il y a un bec d'aigle. Hein. Oui. Ultime conclusion, si vous voulez. Si je m'arrête justement sur Don Cesare au moment de conclure, bon, c'est qu'à la fin de la loi, ben, Don Cesare meurt. Et il meurt heureux, comme Roger Vaillant. Oui. Et avec noblesse. Comme dans les drames du XVIIIe siècle, hein. Comme dans les tableaux de Greuze, hein. Il meurt aussi en libertin, dans les bras de Mariette. Et même alors, Chêne, bon, vous pardonnez, vous savez que quand il meurt, il l'appelle dans son lit, elle vient avec elle, et il lui met la main sur un de ses seins. Hein, c'est ça, sa dernière, au lieu de toucher un marbre antique, bon, il a raison d'ailleurs, bon, bon. Et en même temps, il lui raconte ses dernières pensées, lui confie une sorte de testament, voilà, et il lui lègue une grande partie de ses terres, une grande partie de sa fortune. Parce qu'il avait reconnu, je crois, que cette petite sauvageonne était de la race des vrais hommes. Hein. Et c'est elle qui va prendre la relève dans ce coin perdu du Mezzogiorno. Et tout compte fait, je dirais que la loi figure le destin de l'Italie future. Elle laisse ouverte, la loi, le roman, laisse ouverte l'espérance que d'un Sud qui a du mal, bien sûr, à se libérer de son passé, de ses pesanteurs, politiques, religieuses, sociologiques, ou religieuses, ou sociologiques, ou les trois, et qui pèse encore, malheureusement. Voilà. Bon, oui, je regrette, j'aurais dû lire plus d'extraits de la loi. Bon, oui, non. Attends, je vous signale que la loi, oui. Alors, bibliographie courte, la loi est en folio avec Gina Lollobrigida. Alors, je fais une critique aussi dans le film. Gina Lollobrigida est trop âgée pour le rôle de Mariette. Hein? Elle est belle, elle est pulpeuse, elle a de beaux seins, je suis d'accord. Bon, mais ça ne suffit pas. Bon, alors. Oui, je choque, oui, sans doute. Non, il aurait fallu trouver une personne plus jeune, c'est sûr. Non, Mariette, c'est pas elle. Non. Roger Vaillant, par Elisabeth Vaillant et René Ballet, dans la collection Écrivain d'aujourd'hui, chez Stegas. Oui, il y a d'excellents textes, il y a des choses étonnantes. Alors, quand il était, pour vous dire, René Vaillant est capable de tout, il écrit des récits de guerre, des récits de... Et quand il est là-bas en Bresse, eh bien, il a fait un reportage extrêmement sérieux sur le poulet de Bresse. Et qui est très, très connu, on le dit encore aujourd'hui. Oui. Bon, et puis alors Jean-Jacques Brossier, Roger Vaillant, que je n'aime pas, mais enfin, j'ai quand même la politesse de lire certaines de mes sources. Bon, il y a certainement des choses. Je voulais citer là toutes ces Italiennes qui écrivent sur Vaillant. Malheureusement, on ne peut pas trouver leur livre. Mais on arrive sur la toile, on arrive à trouver quand même un certain nombre de choses. Voilà. Et on peut trouver sur la toile l'article en entier, là, dans la série Les 100 ans du Goncourt, Roger Vaillant le révolté. Et c'était Frédéric Tristan a lu la loi, primée en 57 et écrit ça en 43, et on peut trouver, je l'ai pris là-dessus. Oui. Et je trouve que c'est une très bonne introduction.
Pardon, je ne sais pas si ça a été traduit en italien.
La loi. Ah ben oui, je crois. Ah ben oui, vu le nombre d'Italiens qui ont protesté sur la loi, oui. Oui.
Donc c'est forcément traduit.
Ah oui, non, ça, sûr. Oui. Alors, oui, si quelqu'un peut me dire si la loi est vraiment, il l'a inventée ou si c'est quelque chose qu'il a observé.
Vous avez des questions à poser, oui. Sûrement.
Moi, j'ai un compliment à faire à M. Lingois, c'est de bien prononcer le nom de Stendhal.
Oui.
Parce qu'il souhaitait que ça rime avec scandale.
Absolument, oui, oui, oui.
Voilà.
Oui, oui, ça, oui, on en a marre d'entendre Stendhal.
Ah, oui,
oui, oui, oui. Stendhal, oui, oui. Oui, oui, ça, on me l'a dit.
Et cette semaine, sur France Culture, il y a eu une émission où la personne a bien prononcé tout au long de l'émission Stendhal.
Ah, bon.
Oui, oui.
Mais c'est comme ça, c'est à nous, hein.
Oui.
Très bien. Vous avez
enfin, c'est Roger. Non, c'est oui. Belle, oui.
Henri
Belle. Henri Belle, Roger. Non, tout le monde s'appelle Roger. Non. Non.
Très intéressant tout ça, ça nous a
oui.
Alors, vous avez encore des petites questions à poser pendant que notre ami est là à votre disposition. Sauf qu'il faut acheter le bouquin en italien.
Ah oui, moi j'aimerais bien le lire.
Non, en italien. Ah oui, ça se trouve.
Mais je sais pas si
j'ai. Oui.
Alors, j'ai lu un article sur lui où il disait qu'on a parlé de livres un peu ethnographiques à cause d'une description dont je vais vous lire simplement le début et vous devinez de quoi il s'agit. C'est la description du trabucco. Hein. Alors, un trabucco est une machine à pêcher composée essentiellement par un ensemble de mâts lancés au-dessus de la mer, déployés en éventail parallèlement au flot, dont les pointes tiennent suspendues dans l'air, soit en repos, soit en action, un immense filet polygonal. La manœuvre de filet est commandée par des câbles coulissants sous des poulies enroulées sur des cabestans, le nombre de mâts est égal au nombre de côtés du filet, un mètre câble, etc. Voilà. Alors le trabucco de la pointe Manacoré, oui, est un des plus importants de la côte adriatique, 7 grands mâts, un filet à 7 côtés, 12 hommes d'équipage. Voilà. Alors ça représente... Et il n'y a pas oublié un homme de vigie qui se tient au milieu du mât central, voilà. Et dès qu'il voit qu'il y a un banc de poissons, et hop, il commande la manœuvre. Bon. Oui, alors les mauvaises langues disent que le trabucco est payé par le syndicat des Indiens. Bon. Bon. Voilà le trabucco. Le voilà. Mais il n'y a plus que les mâts, il n'y a plus de filet là. Non, il n'utilise plus, non.
Il n'y a plus de poisson comme il
vient. Oh, ça va être ça, oui.
Voilà. Bon.
Thank you.